aux Éphésiens, excusez-moi, la suite du chapitre 2. Pour rappel, dimanche dernier, dans les versets 1 à 10, Paul, notre pasteur, mais Paul l'apôtre aussi, je ne la referai plus, hein, une fois, nous rappelait que nous avions été sauvés par la grâce de Dieu seulement, une grâce motivée par son amour seul, qui nous a ramenés de la mort à la vie, sauvés de la juste colère de Dieu, un salut par grâce qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais qui ne nous laisse pas sans œuvres bonnes, qui sont les fruits de ce salut, de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous et en nous par son esprit. Et la suite du passage aborde un peu les conséquences relationnelles ou sociales de ce salut. Comment vit-on entre nous? Qu'est-ce que ça va produire entre nous, ce salut, cette réconciliation accomplie par Jésus? Alors, comme pour chacun de nous individuellement, il y a un avant et un après qui découle de notre rencontre avec Jésus, de même, il va y avoir un avant et un après. Comment nous vivons nos relations et ce qui va se traduire premièrement au sein de la communauté que Jésus-Christ s'est rachetée et qu'il continue à construire. La paix que Dieu apporte, qu'apporte le salut de Jésus-Christ, entraîne aussi une paix avec nous. Entre nous, excusez-moi, entre nous. Et même si on fait un petit retour en arrière, Éphésiens 1, 9 et 10, c'est juste un petit hint pour qu'on y réfléchisse, mais ce n'est pas le cœur du message, ce plan... Il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il improvise. Pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est la terre, sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Donc, tout, il y a une réconciliation de nous, personnellement, entre nous, socialement, relationnellement, et même, ça va être une pacification et une paix générale, c'est-à-dire que quand Jésus va revenir, il va renouveler le ciel et la terre. Ce qui nous donne, nous, de quoi agir pour la création, préserver la création en tant que chrétien, c'est pas tomber dans une forme d'éco-anxiété, qu'on a peur pour la planète, tout ça, mais c'est plutôt, ben, on s'inscrit dans l'œuvre que Dieu va faire finalement. Et ça nous rappelle que notre salut, il est personnel, il est communautaire et il est cosmique, universel. Quand Jésus est mort sur la croix, ça semble juste être un petit truc, ça a des conséquences fabuleuses. Alors on va lire Éphésiens 2, versets 11 à 22. Juste, je ne sais pas s'il pourra être projeté ou pas, sinon écoutez bien. C'est la version simple. Juste une petite parenthèse avant de commencer la lecture. Ce passage parle beaucoup des juifs et des non-juifs. C'est dans le contexte de l'époque. Certains juifs avaient accepté le Messie et devenu chrétiens. Les païens aussi entraient dans la bénédiction de Jésus. Et Paul va aborder le problème de comment on vit ensemble, comment cela se fait. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe au niveau géopolitique. N'y voyez pas des catégories politiques, n'y voyez pas un sermon, un discours géopolitique, ce n'est absolument pas le cas. C'est un discours qui parle de comment on peut accéder à Dieu, tout simplement, hein. Voilà, je voulais quand même, vu le contexte, reparler de ça. Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs et qui doivent être traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ces temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sans promesse, sans espérance, pour garantir sa promesse, excusez-moi, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Les deux premiers versets du passage rappellent la situation dramatique des croyants d'origine païenne avant qu'ils soient nés à Jésus-Christ. Mais ils rappellent aussi en creux que ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main des hommes peuvent des fois s'illusionner sur la situation spirituelle. Relisons le premier verset. « C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. » Donc on voit que c'est pourquoi Paul s'adresse aux croyants d'Asie mineure, Éphèse ou ailleurs, il rappelle dans ce verset qu'il y a deux catégories, des Juifs et des non-Juifs, vous qui êtes appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Mais si on lisait juste le verset d'avant, le verset 10, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, dans œuvre de Dieu. Car par votre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous accomplissions. » Donc on voit que le verset d'avant, il y a une œuvre de Dieu, et le verset d'après, il y a un rite accompli sur leur corps par des hommes. On voit qu'il y a une œuvre divine et une œuvre humaine qui sont mises en contraste. Et si on va au dernier verset du passage aussi, « Et unis à Christ, verset 22, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Là aussi, œuvre de Dieu, œuvre humaine ou œuvre de l'Esprit. Et si l'on revient même au tout début du chapitre 2, dans les trois premiers versets, il nous a été rappelé la semaine dernière que ce sont à la fois les païens qui constituent la majeure partie des lecteurs de cette lettre, à qui Paul s'adresse, vous étiez morts, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde, vous suiviez le chef des puissances spirituelles, mais aussi les juifs dont Paul est. Au verset 3, Paul dit, nous aussi, Paul s'inclut dans les juifs, nous faisions tous partie de ces hommes, aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Donc déjà, la semaine dernière, on avait vu, ça apparaissait, Paul nous montrait que ce besoin de salut touche toute l'humanité, juifs et non-juifs. En fait, ces deux catégories résument toute l'humanité, tout simplement. C'était l'humanité connue de... Voilà, il y avait les juifs, spirituellement, dans les églises, et les non-juifs qui étaient tous les autres peuples de l'Empire romain dans les églises à qui Paul écrivait. Et donc Paul montre que ce besoin de salut touche toute l'humanité, juifs et non-juifs, avant déjà le développement qu'il en fait en Éphésiens 2, versets 1 à 11. Et le « c'est pourquoi » du début du verset 11, qui introduit le passage et va leur rappeler ce qu'ils étaient autrefois, sert aussi à mettre en contraste l'œuvre des hommes, une circoncision humaine, et l'œuvre de création de Dieu. Le verset 11 parle d'un rite accompli sur le corps et par des hommes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du passage, le verset 22 va nous parler d'une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors, question, pourquoi l'apôtre Paul semble-t-il remettre en cause la circoncision, alors que lui-même est circoncis et juif, qui a été prescrite par Dieu lui-même comme signe de l'alliance dans l'Ancien Testament? Tout simplement parce qu'elle devait être le signe visible, corporel, d'une circoncision plus profonde que Dieu demandait à son peuple, celle du cœur. On pouvait être circoncis et être aussi circoncis de cœur. Là, Paul s'adresse à des gens, leur rappelant, c'est pas ça le plus important. Cela est présent dès les premiers livres de la Bible. En Deutéronome 10, verset 16, Moïse dit « Opérez donc une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » C'est un passage où Moïse exhorte le peuple à marcher selon l'appel qu'ils ont reçu de l'Éternel. Et plus loin, dans le même livre, Deutéronome 30, verset 6, on voit l'œuvre de Dieu. « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être. » Et les prophètes qui annonceront la nouvelle alliance, Jérémie et Ézéchiel par exemple, parleront d'avoir un cœur transformé, où l'Esprit de Dieu grave sa loi non plus sur des tablettes de pierre, mais dans le cœur des croyants. En résumé, la circoncision de la chair devait être le signe visible d'une circoncision plus profonde, d'une circoncision réelle, celle du cœur. Pareillement, pour nous qui sommes à l'Église, ce n'est pas venir à l'Église qui nous fait chrétiens, ce n'est pas être enfant de chrétien qui nous fait chrétiens. Nous savons que l'eau du baptême en tant que telle n'est que de l'eau, elle n'a aucune vertu magique, elle ne régénère pas. C'est l'œuvre de l'Esprit et nous exprimons publiquement par les eaux du baptême ce que le Seigneur en fait pour nous et en nous intérieurement lorsque nous faisons baptiser. De même, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous nous rappelons qu'il a fait de nous un seul peuple. Nous communions ensemble autour du sacrifice de Jésus pour nous. Mais si vous pensez ne pas être sauvé, si vous n'avez pas fait allégeance à Jésus-Christ, lorsque le pain et le vin passent, ne les prenez pas. Cela ne fera pas de vous un membre de la famille de Dieu si vous les prenez. Au contraire, c'est le moment pour profiter de ce moment pour vous poser la question sur où vous en êtes par rapport à Jésus-Christ, par rapport à son offre de salut et de pardon. Pareil, ce sont des signes extérieurs. Le Saint-Esprit, le Seigneur, fait un travail intérieur qui va se refléter après publiquement. Revenons à notre test. Paul exhorte les Éphésiens à se rappeler leur situation d'autrefois. Il avait déjà fait au chapitre 2, dans les versets 1 à 10, pour parler du salut individuel. Il le fait à nouveau, mais par rapport à l'histoire du salut, là. En tant que peuple païen, avant, ils n'avaient pas accès aux bénéfices promis à Israël, avant la venue de Jésus. Et Paul liste toutes les différences. Ils étaient sans Messie, c'est-à-dire sans sauveur possible, exclus du peuple de Dieu, de ses alliances, sans espérance et sans Dieu. C'est bizarre pour des gens qui avaient plein de cultes païens de dire sans Dieu. Mais toute leur idolâtrie, tout leur culte païen était vain. Ils ne connaissaient pas le seul et unique vrai Dieu. Un Dieu vivant, je l'ai entendu parler dans une prière tout à l'heure, contrairement aux idoles muettes. Alors ça nous fait rire des fois ces histoires d'idoles, mais quand nous on met toute notre espérance dans de l'argent ou dans tel bien-être, ou dans, ben finalement on met quelque chose qui remplace Dieu en premier, quoi. Quand on a des fausses sécurités, eh ben, on est tous touchés par l'idolâtrie, naturellement. Et d'ailleurs, quand Paul y prêche aux païens, souvent, il y a des prédications dans les Actes qui sont adressées plus à des juifs, d'autres plus à des païens, eh ben, il leur rappelle qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et que même s'ils ne le connaissaient pas, même si Dieu les a laissés errer sur leur propre voie, il a pris soin d'eux en leur donnant des récoltes, en faisant lever le soleil, en leur donnant de la joie. Et que maintenant, il s'est révélé à eux, et là, il les appelle à changer, à se repentir, à mettre leur confiance en Jésus. Et les païens à qui, les Éphésiens à qui, les gens d'Asie mineure à qui Paul écrit, ont expérimenté cela. Et il leur rappelle ce qu'il était autrefois. Donc ce verset fait ressortir en contraste les avantages qui avaient été accordés à Israël, et tout ce qui séparait les Juifs des non-Juifs, un Messie, une espérance, des alliances, des promesses, la révélation du vrai Dieu, ils avaient eu accès à ça. Puis arrive un grand mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois y étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus. Un de ces mais dont l'évangile a le secret, il y en a beaucoup dans les évangiles des mais, et en général, il y a une bonne nouvelle qui suit. La bonne nouvelle qui arrive dans une situation désespérée, un renversement de situation. Mais maintenant, il y avait un autrefois, mais Jésus-Christ est intervenu, et il y a un maintenant. L'autre fois a été rappelé pour mettre en lumière, en contraste, le glorieux maintenant dont nous sommes nous-mêmes au bénéfice jusqu'à ce jour et que Jésus-Christ nous a acquis. Il a tout changé. Et les versets 13 à 18 nous décrivent l'œuvre de réconciliation de Jésus et de ses conséquences, comme on a vu au verset 13. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Puis le verset qui suit, le début, « Car nous lui devons notre paix », en parlant de Jésus. Dans d'autres versions, il est dit « C'est lui notre paix », en parlant de Jésus-Christ, ou « Il est notre paix ». Et l'apôtre Paul cite dans ce passage une prophétie de Michée. Normalement, il y avait une side, mais je ne sais pas si c'est bien écrit. Une prophétie de Michée, c'est écrit un peu petit, désolé. 5, verset 4, « À lui nous devrons notre paix ». C'est la paix annoncée par les prophètes qui est en train de s'accomplir. Cette œuvre de paix annoncée par les prophètes, elle est présentée entre autres dans deux passages de Michée. Mais comme Paul cite Michée, on va parler un peu de Michée. Alors, tendez bien l'oreille. Michée 4, versets 3 et 4, nous dit « Et il, c'est l'Éternel, sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Or, le prophète s'adresse aux gens de son époque. Ils ont des épées et des lances et des charrues. Hein, donc il y a les armes de l'époque et les instruments agricoles de l'époque. Et ils vivent sous une vigne et un figuier. Mais, pour que les auditeurs de l'époque comprennent, dans le contexte, il annonce une paix dans des temps messianiques. Et cette œuvre de paix annoncée par Michée, un peu plus loin, au chapitre 5, versets 1 à 4, il nous présente celui qui va l'accomplir, le Messie promis. Et toi, Bethléem Ephrata, on n'est pas à Noël, même si on lit ce texte, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps ancien, au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindront les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu, et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Voilà, la fin du passage qui est cité par Paul. À lui, nous devrons notre paix. Donc on voit que cette œuvre de pacification, dont Michée prédit qu'elle sera accomplie par le Messie, comme on vient de le lire, même si elle ne sera totalement visible que lors de la deuxième venue de Jésus, lorsqu'il établira pleinement son royaume éternel dans les nouveaux cieux de la nouvelle terre, eh bien Paul, en citant Michée 5.4, en Éphésiens 2.14, « Il est notre paix », ou « À lui, nous devons notre paix », veut montrer par là que cette œuvre de paix, Jésus l'a accomplie à la croix. Elle a été inaugurée de manière pratique par la réconciliation entre juifs et non-juifs dans l'Église. Elle fait partie du plan de Dieu de toute éternité, prédit dans l'Ancien Testament, accompli par et en Jésus-Christ. Excusez-moi. Et les versets 14 et 15. On va les relire. Car nous lui devons notre paix, il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis en lui-même en établissant la paix. Donc, les versets 14 et 15 qu'on vient de lire nous décrivent une paix horizontale entre juifs et non-juifs et comment l'œuvre de Jésus l'a rendue possible. En mourant sur la croix, Jésus a parfaitement accompli la loi. Toutes les lois alimentaires, des règles de pureté qui empêchent les juifs et non-juifs de vivre ensemble. Ben, par exemple, si vous lisez le passage de Pierre qui rencontre Corneille la première fois, en Actes 10, 28, il aborde Corneille et puis il dit ceci. Vous savez que, c'est Pierre qui parle, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Puis après, il va lui expliquer que, mais là, Dieu l'a convaincu d'autre chose. Mais c'était la réalité de l'époque. Tout ce que ces lois voulaient enseigner, c'était que l'homme est impur devant Dieu, qu'il a besoin de son pardon. Le temple avait tous les différents sacrifices que l'on voit. Tout cela a été accompli par Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus-Christ qui purifie en pardonnant le péché. Ce n'est pas le rite de respect, le respect de rite alimentaire ou de tout autre rite qu'on peut avoir dans nos vies. Hein ? Ce n'est pas ça qui va nous purifier. Et ce que Jésus-Christ a compris à la loi, déjà, il a anticipé dans sa vie. Par exemple, vous vous rappelez ce passage où il y a la fille de Jaïrus qui est morte, il va aller la voir, il va lui tendre la main, il va lui dire « Jeune fille, lève-toi ». Mais là, Jésus, il a touché un mort. Dans la loi juive, on touchait un mort, on était impur. Non seulement il n'est pas devenu impur, il lui a redonné la vie. Jésus, il a touché des tas de lépreux. Normalement, il aurait dû être déclaré impur. Mais non seulement il n'était pas déclaré impur, les lépreux étaient guéris, ils étaient purifiés dans leur corps, et c'était l'image d'une purification spirituelle. La femme qui a une perte de sang et qui se cache un peu dans la foule, qui touche la frange de Jésus, eh ben, on ne devait pas toucher une femme qui avait une perte de sang. Jésus l'a guéri. Jésus n'est pas devenu impur, c'est lui qui a purifié tous les gens qui sont entrés en contact avec lui. Il est déjà, ça préfigurait l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix, peu de temps après. La loi cérémonielle doit être accomplie par Jésus. La loi morale aussi, elle, pouvait être prise par certains juifs comme le moyen d'accéder à Dieu. Jésus, par son sacrifice, accomplit toute la loi. Et même, il a payé notre dette par rapport à la loi. Qu'est-ce qu'encourait celui qui ne respectait pas la loi ? Eh bien, à la fin, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est aussi ce que prédisait la loi. Jésus-Christ est mort pour nous, à notre place, et nous sommes libres à l'écart de la loi. Ça ne veut pas dire que la loi n'a plus aucune utilité. Elle continue à nous révéler notre péché. Elle peut continuer toujours à nous instruire. Mais nous savons que notre salut a été accompli par Jésus-Christ. Notre obéissance, elle découle du salut accompli par Jésus-Christ. On ne la gagne pas en ayant des bonnes œuvres ou en essayant d'accomplir une loi. La loi était donc comme un mur dressé pour séparer les juifs et les non-juifs, qui était censé garder pur les juifs. C'est comme un mur de séparation, comme une clôture. Et elle a été accomplie par Jésus. Il est celui qui amène la paix, qui est la paix, par son sacrifice. Alors ce mur de séparation dont il est parlé là, il est à la fois la loi dans tous ses commandements, et certains y voient aussi une référence concrète au mur qui existait dans le temple et qui séparait le parvis des non-juifs et les cours dans lesquels les juifs pouvaient rentrer. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais si Paul a aussi ce mur physique en tête, l'image est encore plus forte, je trouve, parce qu'à l'époque où Paul écrit, il continue d'être réellement présent à Jérusalem, parce que le temple ne sera détruit qu'en 70 après Jésus-Christ. Donc, au moment où Paul écrit cette lettre, et de même dans l'image des croyants comme vrai temple de Dieu qu'il va prendre à la fin du passage, c'est d'autant plus fort que le temple de Jérusalem est encore physiquement en place. Mais dans la réalité spirituelle, Jésus-Christ a détruit tout ce qui paraît séparer les juifs et les non-juifs. Et maintenant, à l'époque où écrit Paul et toujours maintenant, c'est lui le vrai temple. Qu'est-ce que c'est le temple ? C'est le lieu où on rencontre Dieu. C'est par Jésus-Christ. Et par déclinaison, secondairement, tous ceux qui sont en lui. L'Église et le temple aussi. Alors, le but de Jésus, ce n'était pas seulement de détruire l'inimitié entre juifs et non-juifs. On peut très bien, il y a un terme à la mode qui est le vivre ensemble, on peut très bien vivre ensemble, mais en s'ignorant, on est à côté, on vit ensemble, on ne se fait pas la guerre, mais on ne se fréquente pas trop. C'était beaucoup plus que ça. C'était, d'après le verset 15, de créer une seule et nouvelle humanité, certaines Bibles ont un seul homme nouveau, à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. La vraie unité, là Paul nous montre, l'Évangile nous montre que la vraie unité, la vraie paix, réconciliation n'est possible qu'en Jésus-Christ, parfaitement. Il y a d'autres paix qui sont possibles, hein, mais c'est la paix qui va même aller jusque dans l'éternité. Il la crée, on n'a pas à la créer, nous on a à la maintenir, mais elle nous est déjà donnée, et elle fait déjà partie de la, c'est déjà un avant-goût de la nouvelle création. Quand nous vivons de la paix qu'a établi Jésus entre nous et pour chacun de nous, nous vivons et donnons un avant-goût de ce que sera parfaitement le peuple de Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est une manière de vivre prophétique qui révèle qui est Dieu. Dans Jean, vous vous rappelez ce que disait Jésus, « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Ça donne envie. Puis on continue au verset 16, on va voir que cette paix entre nous, entre juifs et non-juifs, découle d'abord d'une paix verticale qui est faite entre Dieu et les juifs, et Dieu et les non-juifs et les païens. Hein. Verset 16, il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Donc, dans le contexte, les destinataires, il y a des juifs et des non-juifs, donc ça nous rappelle que c'est parce que nous avons d'abord été réconciliés avec Dieu, les uns et les autres, qu'il peut y avoir réconciliation horizontale entre nous. En mourant sur la croix, Jésus a mis à mort les exigences de la loi, comme on l'a vu tout à l'heure, qui à la fois nous séparait de Dieu et nous séparait les uns les autres, là les juifs et les non-juifs. Et en fait, si on réfléchit bien, ce qui a été dit la semaine dernière aussi, les juifs et les non-juifs, et chacun de nous, ont beaucoup plus de points communs que différents dans le fond sur les choses essentielles. C'est-à-dire que ils devaient tous un jour comparaître devant le Créateur. Ils sont tous également pécheurs. On pourrait dire nous. Hein. Ils sont tous sous la juste colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est un salaire? C'est quelque chose de normal, un dû. Donc, quand Dieu condamne le pécheur, il n'est pas injuste. Alors, nous, des fois, ça nous choque. On dit, ouais, mais quand même, le salaire, c'est quelque chose de normal. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, en contraste, le don gratuit de Dieu, c'est la grâce qui est donnée en Jésus-Christ. Il y a d'un côté un salaire, de l'autre, quelque chose de non mérité, mais de généreux qui est mis en contraste. Et tous, juifs et non-juifs, sont coupables devant Dieu et sont au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et pas ailleurs. Tous coupables, tous pardonnés. Hein ? On mérite la condamnation et on est tous pardonnés généreusement et gracieusement en Jésus-Christ. Est-ce que donc les juifs ou les païens peuvent se sentir supérieurs les uns aux autres ? Ben non, ils sont tous coupables et tous pardonnés. Il y a du gâteau pour tout le monde. Ouais, c'est pas ou les juifs ou les païens ou certains ou d'autres. Non, Dieu est généreux. Et cela peut se décliner à toutes les catégories qui composent une société humaine. Hein. On pourrait parler du fossé des générations. Par exemple, je sais pas moi, des jeunes qui se diraient ouais, pff, les vieux, je veux pas les écouter, c'est bon, ils connaissent pas. Ou des gens plus âgés qui regarderaient les jeunes en les jugeant. Enfin voilà. Eh bien, le prophète Jérémie. Dans les chapitres qui annoncent la nouvelle alliance, déclare en 31, verset 13, vous allez reconnaître, on le chante souvent, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. » Des jeunes pardonnés, des personnes âgées pardonnées, ayant accès au même Père, grâce au Fils, par le même Esprit. En Christ, le fossé des générations peut être comblé par son œuvre. Paul, dans une autre lettre, en Galates 3, 28, il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni homme libre. Ce sont les catégories sociales qui composent la société dans laquelle il vit. Ni homme ni femme, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Alors certains se plaignent de rapports tendus entre les hommes et les femmes dans notre société. Certains parlent même, certains sociologues, de guerre des sexes. Eh bien, les hommes masculins sont des pécheurs. Et les femmes sont pareillement touchées par le péché. Et toutes et tous bénéficient de la même grâce et deviennent frères et sœurs adoptés en Jésus-Christ. Cela n'enlève pas la différence, mais cela peut des fois couper l'herbe à l'action du péché, peut couper le levier du péché qui s'en sert pour créer des failles dans les relations. Savoir qu'on est tous au bénéfice, qu'on est tous des pécheurs, le savoir sur nous-mêmes déjà, mais qu'on est tous pardonnés aussi, avoir un regard bienveillant sur l'autre à cause de ça. Les rapports chef-employé, patron-employé. Hein, dès le départ, chacun peut considérer l'autre comme un ennemi. En Christ, tous pécheurs, tous pardonnés. Alors cela sera vu plus précisément dans le chapitre 5. Hein, c'est juste là que je voulais un peu décliner, pas rester juste sur juifs et non-juifs. Ça nous touche tous. La manière dont Jésus-Christ amène la paix entre juifs et non-juifs peut se décliner à toutes les parties antagonistes de notre société. En lui se trouve la vraie réconciliation. Là, ça se vit dans l'Église. Nous, on peut aussi le vivre ailleurs. On peut, dans nos milieux de travail, ayant dans notre cœur, dans cette pensée, cette réconciliation, nous avons été au bénéfice, être un instrument de paix, être un instrument de réconciliation. Ouais. Là, ça se vit dans l'Église, mais ça peut déborder. On a vu Martin Luther, on est au centre Martin Luther King. On sait que Martin Luther King, ce qui l'a motivé profondément, c'est sa foi. D'ailleurs, quand on lit son discours « J'ai fait un rêve », il y a un moment, il dit « J'ai fait un rêve que toutes les vallées seront rehaussées et les montagnes rabaissées. » Qu'est-ce qu'il fait là? Il cite Jean-Baptiste. Dans Isaïe, il cite Isaïe, qui recite Jean-Baptiste aussi. Il cite le prophète Isaïe. Il cite la paix que va amener Jésus. Et ça a aussi découlé, et le fait, ce qu'il a amené à l'époque, même s'il y a encore des choses à faire, même si ce n'est pas parfait, ça a été un réel avancement. Et surtout, ça a été fait d'un esprit de paix. Et même, Martin Luther King, lui, était chrétien, même certains non-chrétiens ont été inspirés par des paroles de paix de Jésus. Par exemple, il y a un gars qui a été étonné un jour, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, il est rentré dans la maison de Gandhi, il a vu un portrait de Jésus, et dessous, il est notre paix, le verset d'Éphésiens. Donc il a été étonné en disant, mais je croyais que vous étiez hindouiste. Il lui a dit oui, mais j'ai quand même été touché par beaucoup de paroles de Jésus-Christ. Et le but de Gandhi, alors ne dites pas en repartant du culte, le prédicateur il a dit que Gandhi était chrétien, c'est pas ça, hein ? Il n'est pas chrétien, c'était pas une paix qui mène au salut, mais quand il a œuvré pour la libération de l'Inde, pour sa décolonisation, il avait en tête non pas un esprit de « on va se venger sur le colonisateur », mais un esprit de paix. Et entre autres, parmi ses influences, il n'y avait pas que Jésus, il y avait Tolstoï, il y avait d'autres, mais Jésus était une de ses influences, bien qu'il ne soit pas converti au christianisme par après. Hein. Donc on voit que ce message a eu des conséquences dans l'Église éternelle, et là où il a une écoute après, dans ce qu'on appelle la grâce commune, il a aussi peut avoir des conséquences dans la société. Enfin, la fin du passage qui souligne l'œuvre de Jésus, qui est décrite au verset 13 à 18, ben, les versets 17 à 18 nous rappellent que Dieu est communautaire dans son être même. Il y a un seul Dieu, mais dans ce seul être, une pluralité de personnes. Et ce que Dieu est en lui-même, pluralité de l'unité, va forcément découler dans ce qu'il fait, c'est-à-dire dans son salut. Au verset 18, regardez, « Car grâce à lui, le Fils, nous avons accès les uns les autres auprès du Père, par le même esprit. Les trois personnes de la Trinité sont citées et œuvrent au salut. » On dit des fois que le salut a été décidé par le Père, accompli par le Fils et appliqué par le Saint-Esprit à nos cœurs. Mais en tout cas, il y a unité entre les uns et les autres, et ça découle sur un salut qui rétablit l'unité avec Dieu et qui rétablit l'unité entre nous. Et si on lit le verset avant, précédent, je vais un peu à l'envers là, « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Et là, c'est une citation du prophète Ésaïe, parce que tout cela, c'est un accomplissement de ce qu'avaient prédit les prophètes. Et dans l'original du prophète Ésaïe, le verset 57, chapitre 57, verset 19, il y a tout un passage qui parle du salut et qui en parle aussi sous forme de guérison. Le mot guérison est souvent employé. Il dit « Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange, paix, paix à celui qui est loin, comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel. Oui, je les guérirai. » Le salut est aussi vu comme une œuvre de guérison. Et dans Éphésiens, cette guérison se traduit, entre autres, par une réconciliation avec Dieu et entre frères et sœurs venant d'univers différents. Une guérison relationnelle pour d'anciens ennemis. Et c'est là aussi un avant-goût de la nouvelle création. Dans la Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21, je crois, l'Apocalypse, un fleuve sortira du trône de Dieu et de l'agneau. Et sur les berges de ce fleuve, il y aura des arbres de vie qui produiront des feuilles pour la guérison des nations. L'Église de Jésus-Christ peut vivre et témoigner un avant-goût de cette guérison, de cette œuvre de paix, de réconciliation. Je me rappelle, j'ai vécu au Canada entre 91 et 95, c'était une assez grosse église, et il y avait une maison pour les gars célibataires qui voulaient, ça faisait comme un peu maison de formation de disciples, pour les gars célibataires, il y avait une autre pour les filles, et à un moment on s'est retrouvés, c'était rigolo, il y avait moi et un autre français, il y avait un Canadien anglophone qui s'appelait Stéphanos Kagioganakis, donc vous comprenez qu'il était d'origine grecque, il y avait un Nicaraguayen, il y avait un Suisse, il y avait aussi des Québécois. On était au Québec. Après, il est venu. Moi, je partais. Il est arrivé un Amérindien. En fait, c'était donc. On était tous d'univers différents, mais il y avait vraiment. On était unis par Jésus, quoi. Et ça nous a jamais posé de problème. On se dit, ça se passait très bien, quoi. Et personnellement, le fait d'être arrivé dans une église au Québec, étant accueilli par une église, parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité. Le pasteur de l'église était ami avec mes parents, donc j'étais invité. J'ai jamais cherché à rencontrer des associations d'exilés français. Je n'avais pas besoin, quoi. J'avais été tellement bien accueilli à l'église que je n'avais pas besoin, tout simplement. Parce que souvent, entre étrangers, on essaye de se retrouver. On cherche des exilés. Ben là, je n'avais pas besoin. J'étais bien à l'église, même si j'avais deux ou trois amis français aussi. Hein. Ce n'est pas à nier, mais ça existe toujours. Mais c'était. Voilà, il y avait cet accueil, quoi. Alors. Si l'on revient au verset 12, on va revenir un peu en arrière pour finir la fin. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sans promesse, sans espérance et sans Dieu par le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, et on a vu comment, Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a effectué une œuvre de réconciliation entre juifs et non-juifs, qui est le fruit de la réconciliation de chacun des groupes avec Dieu, une réconciliation horizontale, fruit d'une réconciliation verticale, des anciens ennemis devenus frères et sœurs. Et pour conclure sa démonstration, l'apôtre Paul va employer trois images pour parler de cette nouvelle humanité réconciliée en Christ, de l'Église. Alors, au verset 16, déjà, il avait dit il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps. Déjà, il avait l'image du corps. Mais là, à partir du verset 19, il prend trois images. Et ça commence quoi ? Voilà pourquoi. Ou dans d'autres versions, ainsi donc. Ou par conséquent, en fait, c'est la fin de tout le développement qu'il a fait. Et voilà ce que vous êtes maintenant tous ensemble. Juifs et non-juifs, et on pourrait dire tous les autres. C'était là deux catégories, mais ça résume toutes les catégories. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ça c'était avant. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, de plein droit, droit garanti par l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, dont bénéficions de tous les droits dont peut bénéficier le citoyen d'un royaume, du royaume de Dieu en l'occurrence. Pas des citoyens de deuxième zone. Il y a un moment, vous n'êtes pas des résidents temporaires, mais avec une pleine citoyenneté dans le peuple de Dieu. C'est incroyable, hein ? Un peuple formé de juifs et de non-juifs, comme nous venons de le voir. Après, il dit juste après, vous faites partie de la famille de Dieu. Nous avons accès les uns les aux autres auprès du Père. Vous rappelez la prière de Jésus, enseigne-nous à prier notre Père qui est aux cieux. Il commence par notre. C'est pas seulement, même si je l'ai pris tout seul, quand on dit notre Père, on se rappelle que ce n'est pas seulement le mien, mais c'est aussi de celui de mes frères et sœurs. Dans notre Église, on s'appelle assez peu frères et sœurs dans nos communautés. Ce n'est peut-être, c'est pas dans notre habitude de piété. Mais on peut peut-être se regarder nos voisins, nos voisines là, et se dire qu'on est frères et sœurs. Ouais. Mon frère, ma sœur, moi j'en ai pas là. Il y en a plein devant moi. Mon frère, ma sœur, pour qui Christ est mort, que Christ a tant aimé, qu'il a parfaitement pardonné, qui est saint, qui est justifié. C'est incroyable, hein ? Et si chacun de nous porte un tel regard sur l'autre, on va de plus en plus vivre l'Église. Et enfin, après l'image du peuple et de la famille, une troisième image communautaire que Paul va développer un peu plus, ben, il considère l'Église comme un édifice que Dieu est en train de construire. Et nous faisons partie de cet édifice qui s'élève. Il est toujours en construction, tout comme le peuple de Dieu accueille des nouveaux membres depuis 2000 ans et que sa famille continue à s'agrandir. Et le fondement de cet édifice construit par Dieu, ce sont les apôtres, ses prophètes. Personne ne peut dire « J'ai eu une révélation spéciale de Dieu qui va contre ce qu'ont témoigné et mis par écrit les apôtres. » C'est notre fondement. Ou qui ajoute ou qui retranche à la révélation du Nouveau Testament. L'Église, elle est apostolique dans le sens où elle suit la révélation qu'a consignée les apôtres dans le Nouveau Testament. L'Église ne réinvente jamais son message. Il n'y a pas un nouvel évangile. Elle transmet toujours le même et vieux évangile qu'elle va adapter aux besoins de sa société. Mais le fond du message reste le même. Ça, c'est très important. Et là, on a de quoi savoir ce qu'ont dit les apôtres. Inspirés par l'Esprit, Jésus-Christ leur a demandé de le faire. Et eux-mêmes, les apôtres, ils s'appuient sur l'œuvre qu'a accomplie Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, ce n'est pas de message de Paul ou de Pierre ou de Jean, ils disent la même chose. Il leur a été d'abord révélé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, son œuvre, sa personne, son message, c'est la pierre principale sur laquelle son Église est bâtie. Et par-dessus, il y a le fondement des apôtres. Et lui-même a dit, j'établirai mon Église. Et cet édifice, ce n'est pas n'importe quelle construction, c'est le temple de la Nouvelle Alliance. Il est qualifié de temple saint, une demeure où Dieu habite par l'Esprit. On va relire. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Quelle race incroyable! Nous sommes ce matin, ici, des fois on ne réalise pas, une représentation locale du temple de Dieu. Et toutes les églises locales de par le monde et dans toutes les époques de l'histoire. Le lieu où Dieu est présent, le lieu où Dieu se rencontre, le lieu où Dieu offre son pardon. À l'époque où Paul écrit cela aux chrétiens d'Asie mineure, aux communautés d'Asie mineure, qui sont composées de juifs et de non-juifs, le temple est encore debout à Jérusalem. Il ne sera détruit qu'en 70 par les Romains. Mais Paul, inspiré par l'Esprit, leur dit « C'est vous le vrai temple, juif et non-juif, réconcilié avec Dieu et par Dieu. » C'est dans votre communauté, dans notre communauté, que Dieu réside en esprit. Il y a un auteur qui dit que nous sommes des communautés temples. Ça nous fait réfléchir sur des fois, peut-être sur notre piété, dans notre communion avec Dieu. Rappelons-nous que c'est en tant que peuple de Dieu que nous sommes sauvés, un peuple composé d'individus, mais un peuple qui fait communauté, d'individus qui font communauté, excusez-moi. Dieu a décidé d'établir sa demeure parmi nous, et dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question de chrétiens Robinson Crusoe, mais de croyants qui s'aiment, aimez-vous les uns les autres, il faut être plusieurs. Et là, j'avais un vieux pasteur de la première communauté au Chénier qui disait « Ce n'est pas « aimez-moi les uns les autres », c'est « aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Hein ? Des croyants qui s'aiment, il faut être plusieurs, comme je disais, qui s'édifient les uns les autres, qui s'encouragent les uns les autres. Vous remarquez, en lisant les épîtres de Paul, combien de fois le thème « les uns les autres » apparaît. Il faut être plusieurs. Les uns les autres. Qui bénéficient de la grâce de la présence de Dieu quand ils se réunissent. Alors, ça ne veut pas dire que je vais négliger ma communion personnelle. Mais dans une époque où l'individu est, où on est dans une société quand même plutôt individualiste, où la communauté ne vient pas forcément en premier dans notre pensée et dans nos habitudes de vie, ben peut-être qu'on a besoin d'un rééquilibrage spirituel et de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de mettre les lunettes de Dieu et de voir quelle importance il donne à son Église, le lieu où il a décidé de demeurer, son temple par l'Esprit. On va finir par une prière. Seigneur, Père, merci pour ta grâce infiniment variée. Merci de ce que nous a réconciliés avec toi et entre nous, par cette même grâce, Seigneur, par ton Fils Jésus. Et merci de nous donner de toujours plus le réaliser, le voir et le vivre parmi nous, par ton Esprit, Seigneur Jésus. Amen.
Merci Christophe. Si la louange veut bien revenir. Ok. Très bien. On va passer au repas du Seigneur. Je voudrais inviter les personnes à venir.